Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette lecture de Ryoko Sekiguchi. Donc, je vais vous la présenter en quelques mots. Ryoko vit en France depuis 1997, si je me souviens bien. Traductrice, elle a notamment traduit Ati Graimi, Emmanuel Carrère ou Jean Echenoz. Mais c'est l'auteur que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Elle écrit en deux langues, en prose et en poésie. Je suis incapable de vous dire du français ou du japonais ce qu'elle maîtrise le mieux. Elle nous fait nous interroger sur l'art d'écrire, mais aussi sur l'art culinaire du Japon, dont elle parle avec une étonnante sensibilité. Alors, je vous invite chaleureusement à découvrir une écriture profonde qui interpelle nos sens et les flux et reflux de l'âme. Merci.
Bonsoir. Alors, je vais lire aujourd'hui un extrait du livre qui va paraître cet automne, qui s'appelle Dîner fantasme, et qui est une sorte de série de, disons, de séances de dîner spirituel, spirit. Alors, je vais lire. Prologue, comment j'en suis venue à préparer les dîners pour les fantômes. Pendant les presque 10 années qui ont suivi le décès de mes grands-parents, j'ai souvent rêvé d'eux. Ou plus précisément, ils m'ont souvent rendu visite dans mes rêves. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était une période difficile de ma vie et très probablement, ils devaient être inquiets pour moi. La tournure de ses rêves était toujours plus ou moins similaire. Je le voyais chez eux ou dans leur quartier. Dans mes rêves, j'étais consciente qu'ils n'étaient plus ici. Les voir de façon si éphémère me rendait toujours triste et je me réveillais les yeux mouillés. Un jour pourtant, ma grand-mère, qui n'était presque jamais apparue seule dans mes rêves, est venue me rendre visite non accompagnée. Je crois que cela ne s'était même jamais produit de son vivant. Nous nous retrouvions entre femmes dans une petite cantine chinoise de Tokyo, chacune son bol de nouilles devant soi, et nous nous donnions des nouvelles, une visite étrangement agréable. Depuis, je repense régulièrement à ce rêve. Ma mère était une femme d'une autre génération. Sans doute n'était-elle jamais sortie s'amuser sans son mari. Et puis, cette femme, si délicate, souffrait d'une maladie qui ne lui permettait pas toujours d'apprécier les sorties. Moi, qui la connaissais de plutôt bien, je n'ai pas le souvenir qu'elle raffolait des nouilles. Pourquoi ce bol de nouilles ? Traduisait-il son désir inassouvi d'une sortie entre femmes ? Ou avait-elle fait un effort particulier pour venir jusque-là ? Pour m'encourager. L'association de sa visite exceptionnelle et de ce restaurant chinois ne m'a pas quittée depuis. Je me suis même surprise à chercher de passage dans l'ancien quartier de mes grands-parents à Tokyo un restaurant qui pourrait correspondre à celui de mon rêve. Tentative qui, bien sûr, était vouée à l'échec. Mais peut-être n'était-ce pas à Tokyo. Peut-être était-ce à Paris qu'elle voulait me rejoindre pour partager un bol de nouilles avec moi dans le quartier chinois? Durant mon séjour à la Villa Médicis, j'ai fait la connaissance de Felipe Ribon, artiste pensionnaire à la Villa comme moi, originaire de Bogota et hanté lui aussi par les histoires de télépathie et de hypnose, autrement dit par tous les moyens de communication supposés avec ceux qui sont passés dans l'au-delà. Felipe et moi avons tout de suite sympathisé. Nous avons multiplié des sorties ensemble, restaurants, cinéma, expositions. C'est à l'occasion d'un vernissage dans une galerie d'art que nous avons rencontré KW, Romain Pursus, qui nous a expliqué qu'il organisait des séances de spiritisme. Sorti à Rome, c'est un peu se rendre au spectacle. Rien à voir avec Paris. À Rome, les gens, les femmes surtout, sont beaucoup plus habillées, avec ce petit air mondain et un rien désuet quand ces individus croisés dans les réceptions colmontées d'une quelconque fondation culturelle. Rien ne distinguait Cap W de ces Romains qui déambulaient dans cet espace culturel. Complet vestant et cravate impeccable, tissu iridescent façon dos de scarabée, chaussures cirées suivant les règles d'art, de l'art, autrement dit, tout l'arsenal destiné à masquer statut et profession aux yeux de l'observateur. Nous discutions avec un ami artiste quand Ludica de Vuvet, s'approchant pour le saluer, se trouva intégré au petit cercle éphémère de notre conversation. Notre ami fait les présentations, contrariant son mouvement naturel qui eût été de nous ignorer et de garder son ami pour lui seul, parce que, n'est-ce pas, on ne présente pas un collectionneur à un autre artiste. Bonjour, enchanté, voici mes amis artistes, ils sont à la villa, ils travaillent sur l'hypnose. À cet instant, KW, qui s'apprêtait à repartir chercher son verre sitôt les politesses finies, s'interrompt dans son mouvement. Ah, intéressant, il va à ce hypnotisme. Après avoir interrogé Felipe sur son travail un bon quart d'heure, comme le ferait collectionneur courtois, dans un mélange d'anglais et italien, il nous avoue en passant. En fait, il m'arrive aussi à l'occasion d'organiser des séances de spiritisme pour me distraire, vous voyez. Cette fois, c'était à mon tour de m'intéresser à lui. Le monde du spiritisme m'était tout à fait inconnu, mais j'étais séduite par la discrète confession qu'il venait de nous livrer. Je percevais obscurément que les téléséances pouvaient s'entendre comme un moyen de transport rapide proposé par les vivants aux personnes de l'au-delà. KW nous expliqua qu'en réalité, qu'il nous arrivait souvent qu'on passe son temps à attendre sans que celui ou celle qu'on espérait voir daigne se manifester, voire même que quelqu'un d'autre se présente à sa place, comme on viendrait occuper un siège vide au théâtre, pensais-je. Je lui demandai, « In cambio, le cosa offre allora? Scusi, come offrire? A chi? Offrir à ces gens qui viennent de l'au-delà. » Il semblait pris au dépourvu, comme si cette question ne lui avait jamais traversé l'esprit. Je poursuivis. Mais parce que tout de même, on ne convoque pas un inconnu juste pour lui se tirer une information, et pour lui dire après, « Bon, c'est bon, vous faites disposer. » Ce n'est pas votre subordonné. Vous l'invitez déjeuner, au moins. D'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'en concoctant un dîner en pensant précisément à la personne que vous voulez inviter, vous augmenterez la chance qu'ils viennent vous rendre visite? Cette idée m'était venue tout soudain, dictée par ma nature de cuisinière. Je n'y avais jamais songé auparavant. Mais KW semblait la trouver fort intéressante. Écoutez, il se peut que je vous contacte à ce sujet. Je vais réfléchir à la question. Nous échangeons nos cartes et le voilà qui s'en va. Nous aussi, nous partons manger un morceau de notre côté. Cette conversation nous avait beaucoup amusé Felipe et moi. Peut-être m'avait-elle même inspiré plutôt qu'amusé parce que je n'avais jamais songé moi-même à associer cuisine et fantôme. Dans cette rencontre, il nous arrivait de la raconter dans nos dîners pour taquiner les autres pensionnaires de la Villa Medici qui n'en croyaient pas un mot, persuadés que nous fabulions. Pourtant, nous n'imaginions pas une seconde que ce monsieur pourrait chercher à nous contacter. J'étais assez enthousiaste à l'idée de participer à ces séances de spiritisme, mais Felipe, qui en fait croyait beaucoup plus que moi aux fantômes, était réticent. Comme je n'aurais pas eu le courage d'y aller seule, nous ne nous manifestions pas davantage de notre côté. C'est 3 semaines après cette première rencontre que KW nous contacta. Il nous proposait de travailler pour lui. Il voulait que nous préparions des repas pour ces séances de spiritisme. Vous savez, prenez ça à la légère, comme vous feriez une performance artistique. Si vos plats ne sont pas du goût de notre invité, ce n'est pas bien grave. Laissez-vous inspirer, de toute façon, nous avons tout à gagner à cette tentative. Il s'agit d'une première pour nous aussi. Cette proposition acheva de lever mes dernières réticences. Et puis, nous n'avions aucune raison de nous priver d'une occasion de découvrir cet aspect de la ville qui nous était demeuré caché. Felipe, dans cette aventure, la curiosité l'avait emporté et j'entraînais Felipe dans cette aventure. Oui, avec joie, nous sommes partants. Vous nous indiquerez le protocole. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler pour K2V et ses mystérieux convives 6 mois durant. La collaboration devait s'achever avec notre séjour à la Villa Médicis. Peut-être ne pouvions-nous accepter cette collaboration qu'en la sachant limitée dans le temps. Quoi qu'en dise K2V, cependant, il était impossible de s'engager à la légère. Ce travail nous imposait des réflexions assez pesantes. En revanche, nous étions généreusement rémunérés. L'ensemble s'évaporait joyeusement en plats et en bouteilles consommés par nous, à qui ces choses sont nécessaires pour ne pas mourir. Peu à peu, nous avons commencé à prendre note de ces réflexions, chacun à sa façon. Les mementos devenaient indispensables pour ne pas répéter les mêmes plats, les mêmes ingrédients ou les mêmes échecs. Felipe prenait des photos et je notais toutes les discussions que nous avions eues, ou aussi bien le déroulement réel des séances avec les recettes et des idées qui, de plats à réaliser, le tout en vrac, sur le même plan. La condition pour publier ces notes était que nous gardions du secret pour les noms des invités et que nous nous abstenions de livrer des descriptions trop détaillées des séances, ce qui risquerait de dévoiler l'identité des participants. Cela nous paraissait assez naturel. Dans le cas qui nous occupe, cela importait peu, notre but n'étant pas de rédiger un guide de Rome insolite et secrète. Le souvenir de chaque séance particulière, nous l'emportons avec nous. L'important, c'est que cette expérience enrichissait notre perception des rapports que nous pouvons, et surtout ne pouvons pas, entretenir avec ceux qui nous ont quittés. Peu à peu, l'idée de consigner des notes sur ces repas nous est apparue nécessaire pour une autre raison encore. Nous documentions ainsi notre expérience à l'intention de ceux qui désiraient, eux aussi, à l'avenir, inviter des gens de l'au-delà. Certes, nous ne sommes pas spécialistes en la matière. Nous n'avons aucune assurance de l'efficacité de ces notes, qui ne sont pas vraiment des notes, ni des recettes à proprement parler. On trouverait sans peine des recettes plus attirantes pour les fantômes. Mais en définitive, puisque personne, que je sache, ne s'est encore risqué à inviter les fantômes à partager un plat, ces recettes et la chronique de notre expérience, la première du genre, peuvent s'avérer utiles à ceux qui voudraient s'initier. Comme vous pourrez en juger, si je me suis lancée dans cette entreprise, c'est dans le seul espoir de partager de nouveau un jour un bol de nouilles avec ma grand-mère et de lui dire « Mamie, au fait, c'est bien cela ce que je voulais ? Si c'est bien cela, des bols de nouilles, je t'en préparerai tant que tu voudras. Reviens plus souvent, tant que tu veux, ne serait-ce que le temps d'un repas. » Note sur l'eau. L'eau pure. Au début de notre collaboration avec K2V, Felipe et moi réfléchissons aux boissons à offrir à nos invités de l'au-delà. Puisqu'une table digne de ce nom ne saurait se concevoir sans elle. Nous raisonnions tout naturellement que l'eau devrait convenir à tout le monde. Composant essentiel de notre corps, on la retrouve dans toutes les cultures et à toute époque, limpide et sans goût marqué. Chacun, fantôme, enfant et fantôme âgé, pourrait en boire. Mais je me ravisais aussi bientôt. Je sensais qu'au contraire, ça serait sans doute la seule boisson à éviter. Parce que l'eau est unique boisson qui peut s'avérer mortelle par son excès. Certes, n'importe quel aliment peut vous tuer s'il est avarié ou consommé en trop grande quantité. Mais pour en consommer jusqu'à mourir, il faut vraiment le vouloir, alors que certaines conditions naturelles font que vous pouvez mourir d'un excès d'eau, même si vous ne l'avez pas cherché. La noyade. Dans la rivière ou dans la mer, vous pouvez mourir à votre corps défendant de trop d'eau ingérée. Ce n'est pas que l'eau soit nocive. Elle excède les capacités humaines. On ne peut pas boire la rivière entière. C'est le seul cas d'un phénomène naturel consommable mais mortel. J'ai travaillé il y a quelques années sur la catastrophe de Boston. Il s'agissait d'une inondation de mélasse. En 1919, une grande citerne mélasse explosa et déversée dans les rues comme un raz-de-marée causa la mort de 21 personnes et plus d'une centaine de blessés. Mais ce genre d'accident excepté, on ne meurt pas habituellement d'une avalanche de chocolat chaud ou d'une attaque de chou-fleur. Dans l'au-delà, tout le monde a franchi le passage entre ce monde et l'autre. Les circonstances diffèrent selon les individus et j'ignore s'ils se souviennent de l'instant de leur passage comme nous avons perdu le souvenir de celui de notre naissance. Toutefois, au cas où ils auraient conservé de l'eau une sensation douloureuse, mieux vaut ne pas ranimer d'anciens souvenirs ou des souvenirs récents pour ceux qui ont franchi le passage récemment. À la limite, l'eau pétillante pourrait fonctionner puisque l'eau de source, qui se cache dans la nappe phréatique, ne fait de mal à personne. Mais ne jouons pas avec le feu. En matière de poisson, il n'y a que l'embarras du choix pour étancher la soif de tout un chacun. Dorénavant, je disposerai plutôt sur la table de la bière fraîche, différentes sortes de vin, de punch, de café, suivi en fin de repas, whisky et de digestif, au cas où nos invités voudraient s'attarder un moment avec nous, et des jus de fruits frais pour les plus jeunes. Je fais un thé. Intermezzo. C'était un jour de la fin du mois de novembre et nous étions tout occupés par nos séances de spiritisme. Il commençait à se répandre dans l'atmosphère une fraîcheur aiguë plutôt agréable qui n'était pas proprement parlée hivernale. Comme si le temps ne voulait pas encore atterrir en hiver et planer jusqu'à quelques mètres du sol. Juste à quelques mètres de sol. Du retour d'un dîner, nous nous apprêtions à traverser le pont Cavour pour regagner la Via Tomaselli quand nous supprîmes la montée du sel. Sur la rive opposée, à la hauteur du pont suivant, du gros cristaux du sel blanc, d'un rose grisâtre, s'élevaient comme des oiseaux migrateurs, ou plutôt les lucioles. Ils étincelaient. Il y a longtemps que je connais le sel autrement que sur la table. Au Japon, on utilise le sel comme purificateur. On en jette une pincée sur la personne qui rentre d'un enterrement avant qu'il ne passe le seuil de la maison. On en dépose devant les habitations ou à l'entrée des restaurants pour chasser les mauvais esprits. Selon certaines traditions européennes, renverser du sel est considéré comme un signe néfaste, mais les croyances autour du sel se rencontrent dans bien d'autres cultures, sans doute parce que le sel est l'un des rares aliments dont les propriétés restent inaltérées avec le temps. On a chargé le sel de maintes symboles et vertus, mais personne ne se soucie de la vie du sel proprement dit. On a longtemps attribué au sel des pouvoirs magiques. Serait-ce à dire qu'il est vivant? Le sel a-t-il une âme? Et les aliments que nous assimilons tous les jours pour rester en vie ont-ils une âme? Toujours est-il que ces cristaux de sel que nous observions à l'instant semblaient se libérer de quelque chose et prendre le chemin de leur vie propre. Ils s'élevaient chacun à son rythme, mais finissaient tous par disparaître, comme s'ils rentraient l'un après l'autre dans leur nid. Note sur la vitesse. Si cette idée de dîner de spiritisme m'était venue spontanément le jour où nous avons rencontré KW, elle m'avait sans doute été inspirée par une coutume japonaise. La semaine de retour des morts. En été, on consacre une semaine à accueillir les morts qui reviennent. Les dates varient d'une région à l'autre. Pendant cette période, les portes de l'au-delà s'ouvrent et les morts reviennent parmi nous. Ce sont leurs congés annuels. On les accueille avec de la nourriture, des réunions de famille et même de la danse. Traditionnellement, on dansait certaines soirs dans l'enceinte des temples. Des couples bien vivants en sont nés, et même des bébés. Il s'agit bien, en d'autres termes, d'une série de dîners pour les fantômes aux proportions colossales et quasi officielles à l'échelle du pays. Dans plusieurs régions, on confectionne à cette occasion de petits carrosses pour les accueillir. On les sculpte, tantôt dans une aubergine, tantôt dans un concombre. On y plante 4 baguettes en bois en guise de pâte et on les dépose en décoration devant l'autel. Le concombre, figure de cheval, est le véhicule par excellence pour accueillir les hôtes de l'au-delà. C'est l'animal le plus rapide. Au retour, en revanche, c'est une vache qu'on attelle pour que les voyageurs prennent tout leur temps pour regagner l'au-delà. Parfois, le système s'est accommodé à l'air du temps et on suspend de petites voitures ou des trains mécaniques sur le châssis devant l'entrée de la maison. Cette tradition m'a toujours paru extraordinaire. Les Japonais, connus pour ne jamais prendre de congé de leur vie, pour une fois, ont droit à une semaine de vacances. À une occasion, pour nos dîners de fantômes, j'ai voulu puiser à l'enseignement de cette tradition. Juste pour cette seule raison, le jour de ma mort, je veux mourir au Japon. Il serait trop dommage d'être privé d'un tel privilège. D'ailleurs, si tant de morts reviennent chaque année au Japon, on peut en déduire que leur véhicule fonctionne à la perfection. Entre ici et l'au-delà, on voudrait circuler à la vitesse de l'éclair pour retrouver ce qu'on aime. Dans le Japon médiéval, on peignait des tableaux particuliers à l'usage des personnes parvenues au seuil de la mort. Le dieu Amida Nyōrai y apparaît en personne tendant la main du fidèle. D'abord statique, par-delà les montagnes, Amida Nyōrai s'est vu progressivement représenté en mouvement, s'empressant en suivant du mourant pour le conduire à la terre du repos éternel. Il est monté sur un nuage au sillage apparent, se déplaçant littéralement à la vitesse du nuage pour conduire le fidèle au paradis. Dans les représentations plus tardives, le dieu est représenté déjà presque à la porte de la maison du mourant. C'est le cabriolet en sens inverse. Il ne fait pas bon s'attarder dans l'intermonde. C'est précisément dans cet interstice que gît le danger le plus redoutable. Nous sommes soit parmi les vivants, soit parmi les morts, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais sur la route qui mène de l'un à l'autre, il n'y a ni vivant ni fantôme. Un véritable no man's land. À aucun prix, il ne faut tomber dans cet abîme. C'est lorsqu'ils sont en route que nous nous inquiétons pour les voyageurs. Il faut raccourcir le trajet entre deux mondes. Peut-être faudrait-il inventer un véhicule qui ne touche ni la terre, ni les fleuves, qui s'étendent entre deux mondes. Mais pas un véhicule ailé, surtout pour ceux qui ont peur du vide. Plutôt un système qui permettrait, grâce à sa vitesse et à son énergie, de décoller juste de quelques centimètres au-dessus du sol. De cette manière, nos invités seront les premières à arriver à l'ouverture des vacances à la mer. Ils éviteront les embouteillages. Nous les attendrons avec une grillade de poissons. Il faudrait leur trouver un ingrédient, de préférence un légume, si l'on s'en tient à la tradition. La tradition doit avoir sa raison d'être, dont la peau résiste à la vitesse et qui soit d'une couleur éclatante, pour annoncer l'arrivée de loin, une belle couleur qui se démarque des autres, sacré véhicule futuriste. Ainsi, nos invités seront toujours les plus sick, vous voyez. J'ai choisi les piments, en fait, pour ça. Alors, note sur les gâteaux. Après avoir visité les catacombes de Capucines de Palerme, j'ai fait un rêve. J'étais une mère sicilienne et je tendais un gâteau à quelqu'un. « Tiens, mange ça, mon petit, c'est bon, mange !» Je ne m'en voyais pas moi-même, normal, mais alors comment pouvais-je savoir que j'étais sicilienne? Et je ne voyais pas non plus celui vers qui je tendais la main, mais je savais que c'était mon enfant, alors que je n'ai pas d'enfant dans la réalité. Je voyais seulement ma main, beaucoup plus charnue que ma main réelle, et un peu maladroite, comme celle de ma grand-mère, mais en plus robuste. Elle était déjà malade quand j'étais petite. J'étais devenue sicilienne, la femme que j'aurais voulu que soit ma grand-mère, en grande santé, capable de résister au plus fort du soleil, et elle me tendrait la main. « Mange ça, ma petite, il est bon le gâteau. » Je me suis réveillée. Je ne savais pas qui était cet enfant, mais je pleurais, ignorant si j'étais finalement parvenue à lui donner ce gâteau, n'ayant pas vu le prendre dans ma main. La nostalgie sans objet existe-t-elle? L'attachement sans objet. À la suite de ce rêve, plusieurs jours durant, dans ma tête, j'ai appelé cet enfant ma petite âme. Je ne pouvais pas cesser d'être cette Sicilienne, ma grand-mère d'une autre vie. J'ai dit à Felipe, il faut qu'on prépare un goûter pour les fantômes. Les gâteaux n'avaient jamais été évoqués dans notre projet, je ne sais pas pourquoi. Peut-être justement parce qu'ils suscitaient trop de nostalgie facile, mielleuse, comme tout le monde, on a des récits en réserve. Mais en fait, pourquoi pas? Il se peut que l'histoire que n'importe qui pourrait raconter soit l'histoire dont nous avons tous besoin, de celle qui circule de main en main à la façon des sucreries. J'ignore ce qu'il en est des fantômes, mais nous pouvions au moins tenter le coup. Malheureusement, nous n'avons pas les cinq sens en commun avec les fantômes, ni le corps, ni la langue, et encore, ça reste à voir. Peut-être que le miel seul, le sentiment qui coule, pourrait faire passer une goutte de quelque chose. Ma petite âme, viens. Je vais te donner ton goûter. » Et c'est comme ça que Felipe et moi avons préparé un goûter pour les fantômes. Note sur la nourriture des fantômes. À force de réfléchir à ce qu'un fantôme accepterait ou serait capable de goûter ici-bas, il m'est venu une question saugrenue. Les fantômes se nourrissent-ils dans l'au-delà? Et si oui, de quoi? Non que je sois particulièrement portée à la consommation d'hypothétique nourriture de l'au-delà au point d'en être blasée sur place. Seulement, j'en étais curieuse. D'une part, je supposais qu'une certaine notion de leur alimentation habituelle m'aiderait à mieux préparer nos repas. Et puis, je voulais simplement savoir pour me rapprocher d'eux. Pour ma grand-mère, venue me rendre visite en rêve, son bol de nouilles avait-il le même goût qu'autrefois, avant qu'elle s'en aille? Que peut-elle bien manger ce soir, par exemple? Au lieu des offrandes que l'on fait aux morts et qu'on dit qu'ils goûtent, j'avais envie de poser un panier vide sur la table le temps d'une séance. Que, pour une fois, ce soit leur tour de nous apporter à manger un peu de leur pain, par exemple. Cela faisait un moment que Felipe et moi préparions des dîners pour les fantômes. Mais les fantômes, pour leur part, ne nous avaient jamais invités. Certes, nous n'avions jamais rien négligé de tel, mais il se pouvait ainsi que nous n'ayons encore jamais prêté attention aux signaux de leur invitation. Pendant toute la durée de notre collaboration, Felipe et moi n'avons jamais cessé de discuter et d'échanger sans quoi nous n'aurions pas été capables de réaliser un seul dîner. Notre pensée avançait d'un même pas. Pourtant, à côté des idées que nous parvenions effectivement à accomplir dans nos séances dînatoires, nous sentions que chacun de nous commençait à tisser son histoire à soi, sans oser nous en ouvrir l'un à l'autre. Cette note sur la nourriture des fantômes, je devais la garder pour moi seule. Un jour, j'étais seule chez moi. J'avais préparé un dîner pour mon invité. J'étais la petite marchande d'allumettes, le temps d'un repas. Certes, j'avais moi-même préparé les plats, contrairement à la pauvre fillette qui n'avait rien à se mettre sous la dent et ne pouvait avoir du repas qu'une impression fugace, le temps que brûle une allumette. Mais à mon tour, comme la fillette, j'aspirais à ce repas des fantômes, au sens littéral, servi par les fantômes, quand bien même qu'il n'apparaîtrait que le temps d'une allumette. Pour partager ce repas des vivants et des fantômes. Il m'est arrivé d'imaginer le cas d'un couple qui décide de mourir ensemble et qui échoue. L'un part, l'autre reste. Peut-être un dîner de spiritisme leur serait bénéfique pour qu'enfin le suicide à deux se réalise. Car, comme chacun sait, quiconque consomme la nourriture de l'au-delà bascule lui-même dans l'au-delà. Il suffit à celui qui est parti d'apporter un peu de son repas et le déposer sur la table et de prendre l'autre par la main. Une fois encore, rien ne garantit la validité du symbole. Peut-être pourrions-nous goûter tous ensemble le repas du vivant et du mort agréablement dans le partage. Si seulement cela était possible. Je me demandais ce que je ferais si mon invité se présentait avec de la nourriture de l'au-delà. Peut-être les êtres que j'aimais n'en apporteront pas à cause du risque encouru. Mais je savais que je répondrais sans hésitation à l'appel d'une certaine personne si elle se présentait. J'ai dressé la table. J'ai posé le panier vide sur la table et j'ai attendu. Merci.